Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un survol rapide des analyses que j'avais faites dans le cadre de ce mémoire de maîtrise sur Rosa Luxembourg. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'a menée à travailler sur une révolutionnaire allemande? Eh bien, c'est justement, pour rebondir sur la conférence de tout à l'heure de Jean-Philippe, le fameux printemps érable. En fait, en sortant de la grève étudiante de 2012, dans laquelle je m'étais impliquée pendant 6 mois à temps plein et que j'avais participé à construire 2 années, en fait, avant, je voulais travailler, en fait, sur les imaginaires qui étaient sortis, qui avaient été déployés pendant la grève étudiante, mais c'était tellement frais, tellement émotionnellement chargé, que c'est un projet que j'ai abandonné et j'ai décidé de prendre une distance historique. En fait, par rapport à ça. Donc, j'étais intriguée à l'époque par la vie des femmes qui avaient fait de la lutte politique le centre de leur vie. À l'époque, en fait, au moment où je faisais mes recherches préliminaires, Luxembourg m'apparaissait comme un monument démodé du communisme, qui offrait, en fait, du moins le croyais-je, peu d'emprise sur le temps présent. À l'image de la militante froide et de la théoricienne marxiste orthodoxe, se sont pourtant superposées des couches de sens imprévues. Lors, en fait, de mes premières recherches, j'ai été conquise rapidement par la détermination de la jeune fille à la jambe trop courte, qui a dû se battre pour entrer dans une grande école pour filles, où les admissions des Polonaises et encore plus des Juives étaient contingentées. Donc, pour la petite histoire, elle était, à ce moment, elle habitait, elle est née en fait en Pologne, et qui était sous le joug de la Russie. Donc, elle était à la fois une Polonaise en Russie et une Juive en Pologne. Donc, la rapidité avec laquelle, en fait, elle a commencé à militer dans des groupes clandestins socialistes alors qu'elle était encore à l'adolescence avait fait écho à mes propres expériences politiques. Ensuite, en fait, j'étais étonnamment surprise par le nombre assez élevé d'œuvres contemporaines qui la mettaient en scène. Alors qu'on célébrera bientôt le 100e anniversaire de sa mort aux mains des forces contre-révolutionnaires allemandes en 1919, notre époque continue à multiplier les timides références. Soit des romans l'utilisent comme personnage principal, bon, des biographies sont publiées, quelques artistes de gauche continuent ou s'inspirent d'elle. Donc c'est cette résurgence dans notre temps qui se trouvait au cœur de la réflexion que je posais ici. Donc pourquoi s'intéresse-t-on encore à Rosa Luxembourg en 2017? Que nous apprend le soudain regain d'intérêt envers une icône marxiste sur les questions qui taraudent notre époque? Pour référence, en fait, parmi les nombreuses biographies qui existent, si vous voulez vous lancer là, dans les lectures, celui que je suggère, c'est le roman graphique de Kat Evans qui a été publié aux éditions Verso. Ça se lit comme un charme, c'est vraiment très, très agréable. Donc, au-delà de l'aspect spectaculaire de sa mort et de la disparition de son cadavre pendant plusieurs mois, qui ont participé à créer le mythe entourant à sa personne, toute sa trajectoire de vie appartient à l'extraordinaire. Donc, rapide biographie pour les personnes qui la connaissent un peu moins. Donc, cette femme, née en mars 1871, à la veille de la Commune de Paris, a su canaliser les espoirs de réussite des socialistes révolutionnaires, espoirs qui ont en partie disparu avec son assassinat. Confluant de plusieurs oppressions, femmes, juives, polonaises, handicapées, elle a survécu au pogrom de 1881 et elle s'est par la suite engagée dans un groupe socialiste clandestin. Menacée par les forces impériales russes, elle s'exile en Suisse en 1889 où elle rédige sa thèse de doctorat sur l'industrialisation de la Pologne. Mais ses véritables débuts comme militante socialiste se font à Berlin avec son entrée au Parti social-démocrate. Sa grande assiduité au congrès de la Deuxième Internationale, ainsi que sa verve légendaire, l'ont lancée dans des débats corsés avec plusieurs illustres intellectuels de son époque, dont Jaurès, Lénine, Bernstein ou Kautsky. Intellectuelle du début du 20e siècle, elle a mené de front plusieurs combats pour la démocratisation de la société allemande, contre la Première Guerre mondiale et pour l'instauration d'une république socialiste allemande. L'échec de la semaine spartakiste en janvier 1919, son assassinat politique et la disparition de son corps pendant plusieurs mois ont en fait contribué à enrichir le mythe autour de sa personne. Sa vie romanesque n'explique pas à elle seule la fascination qu'elle exerce sur les écrivains. Avec la publication de ses lettres de prison, puis avec la découverte de sa correspondance privée, se trouve dévoilée publiquement une femme en avance sur son temps, et ce, en fait, à bien des égards. Ainsi, de nombreux amants ont traversé sa vie, alors qu'elle ne s'est jamais mariée, outre en fait un faux mariage pour pouvoir immigrer en Allemagne, n'a pas eu d'enfant, habitait seule, et voilà ce qui fait exception dans une Allemagne impériale où les femmes n'avaient que peu de droits, et encore moins celui de voter. Mais c'est surtout le rôle qu'elle a joué lors de la Révolution allemande qui tourmente les écrivains. Luxembourg se trouve effectivement à une croisée des chemins, car la réussite de sa tangente politique aurait bouleversé la face de l'Europe. Le communisme de Luxembourg, parce qu'il reposait sur une égalité de droits et sur un fonctionnement démocratique en conseil d'ouvriers, aurait manifestement construit une opposition au léninisme ou, plus tardivement, au stalinisme. Le succès d'une telle révolution aurait-il pu également empêcher l'émergence du nazisme en Allemagne? Et voici en fait les différentes questions autour desquelles la plupart des œuvres tournent ou du moins essaient de rêver, de fantasmer. Le succès d'une telle, quant à l'aspect sacrificiel de sa mort, il constitue l'une des pierres angulaires de sa figuration dans l'imaginaire social. Et même si Luxembourg était bien connu de son vivant des milieux socialistes européens, entre autres pour sa plume enflammée et ses talents d'oratrice, son immortalisation dans l'histoire doit davantage aux circonstances tragiques de sa mort, qui l'ont transformée en une effigie du socialisme révolutionnaire. Il en va de même dans la fiction, ses quelques apparitions dans la littérature mondiale du 20e siècle, tout comme l'évolution de sa réception critique, sont intimement liées aux soubresauts politiques. Dans les plus anciennes, on retrouve une forte dimension commémorative et une fascination quasi morbide envers son sacrifice. En 1828, Kirk Whale compose le Requiem berlinois sur des textes de Bertolt Brecht. À la veille du 10e anniversaire de la mort de Rosa Luxembourg, et deux des textes lui rendent directement hommage, Une jeune fille noyée et Épitaphe. Le premier fait le récit de la disparition de son corps, avalé par les flots du canal, alors que le second lui rend hommage en une brève épitaphe. Une année plus tard, elle figure indirectement dans le roman de Tchevengour d'Andrzej Platonov. Dans les années 1835-1845, alors qu'on réédite ses œuvres politiques en France, Alfred Döblin rédige une tétralogie, novembre 1918, et où il lui consacre en partie son dernier tome. Ce n'est que dans les années 60 et 70 qu'elle revient à l'avant-scène, dans le contexte post-mai 68 des mouvements de décolonisation et de la révolution sexuelle. Dans un long poème, Rosa Lux, André Benedetto, la fait ressurgir à une espèce d'hommage qui tombe à cheval entre le centenaire de sa naissance et le 50e de son assassinat. Dans les mêmes années, on publie une pièce de théâtre par Armand Gatti, puis Pierre Bourjade lui consacre aussi la pièce Étoile rouge, où il la lie à Marilyn Monroe. Dans les années 90, moi j'avais étudié en fait deux œuvres qui tissent un lien symbolique entre Luxembourg, la question de la liberté et les oiseaux. Une pièce de théâtre américaine et puis la fresque en fait du peintre québécois Jean-Paul Riopel, son immense hommage à Rosa Luxembourg. En même temps, en fait, donc dans les années 60, on revient à ses écrits politiques. C'est en fait dans ce contexte que l'un de ses biographes souligne que sa pensée avait une résonance particulière dans les années 60 et je le cite, car elle était la prophète par excellence de la révolution non institutionnelle. Pour Nittel, les raisons de sa résurgence s'expliquent par l'émergence d'un nouveau sujet révolutionnaire. Les travailleurs, maintenant tactiquement défendeurs du statu quo, ont été remplacés par d'autres groupes sociaux, du moins c'était sa thèse. Les jeunes, donc principalement des étudiants et des étudiantes, mais à l'époque c'était des étudiants, les minorités ethniques, des intellectuels dissidents. Et ainsi, la pensée luxembourgeoise, axée sur l'action, faisait alors écho au questionnement des intellectuels de gauche sur les possibilités des transformations sociales. Puis, en fait, dans le cadre de mon mémoire, je m'intéressais aux œuvres post-année 2000, donc les œuvres de l'extrême contemporain, et je m'intéressais un peu en parallèle à la republication de ses écrits politiques, les rééditions, etc. Puis, ce que je remarquais, c'est donc un retour aussi, au même titre que dans les années 60, à ses écrits. À la fois icône révolutionnaire et sujet historique, elle inspire la gauche radicale contemporaine. Et parmi toutes les figures marquantes de l'extrême gauche, elle est l'une des rares qui continue à hanter, du moins c'est ma thèse, positivement, l'imaginaire de notre siècle. Alors que des écrivains lui ont rendu hommage, elle continue à faire figure d'exception dans le paysage politique et même dans celui de la gauche radicale. Tandis que les textes saluent le courage politique dont elle a fait preuve dans ces derniers jours, son pendant littéraire est une source d'espoir qui éclaire les époques. Moi, en fait, je me suis intéressée à la représentation contemporaine, à sa représentation contemporaine, en fait, à l'aide de deux romans. La Logeuse, publiée au Québec par Éric Dupont, et Les rêves de l'histoire de l'historienne française Corinne Agouzou. Ce qui m'intéressait avant tout, c'est d'interroger la survivance de la pensée politique de Rosa Luxembourg, mais aussi la manière dont elle représente. Qu'est-ce qu'on garde comme mythe? Qu'est-ce qu'on réifie comme mythe? Comment est-ce qu'on essaie de démythifier ou de la remettre, de la réactualiser? Donc, de quelle manière, en fait, elle nous ressurgit à travers ce siècle de différence? En étudiant sa présence discursive dans les œuvres, de même que la manière dont les écrivains la mobilisent, je m'intéressais plus particulièrement à son anti-militarisme, son internationalisme et ses idées révolutionnaires, de la façon dont, justement, ils vont fasciner et façonner les univers romanesques. Je vais vous parler donc d'abord de La Logeuse. Petit résumé rapide de l'histoire de La Logeuse. On est en Gaspésie. En Gaspésie contemporaine, une jeune fille du nom de Rosa Ost, donc Ost faisant référence à Est, se retrouve dans une histoire un peu abracadabrante où le vent a cessé le vent est tombé dans son village. Bon, dans la vie, c'est pas si pire, sauf que lorsque dans ton village, il y a une source mortelle d'une denrée rare, qui s'appelle l'ennui, qui est mortel. L'absence de vent conduit donc à la mort de la plupart des habitants. Donc, les gens étaient terrés chez eux, ils avaient de la difficulté à respirer, sa mère en est décédée, et Rosa, sur la plage, prend un coquillage, et le coquillage lui dit « Montréal, va à Montréal, tu pourras ramener le vent ». Donc, en bonne jeune fille, elle prend son sac à dos et elle part toute seule vers la grande ville cosmopolite de Montréal pour sauver son village en ramenant le vent. Quel est le rapport entre le périple de cette jeune fille et Rosa Luxembourg, vous me direz? Eh bien, en fait, le roman nous le fait très bien, ce lien. Le prénom, en fait, de la jeune fille gaspésienne n'avait pas été choisi par hasard. Je vais citer le roman. « C'est à Rosa Luxembourg que l'enfant devait son prénom vieillot », nous indique l'auteur. Sa mère voulait donner à la révolutionnaire assassinée une nouvelle enveloppe charnelle. Donc, ça ne pourrait pas être plus clair. Nous avons ici devant nous une réincarnation de Rosa Luxembourg. La nuance que moi je posais, c'est qu'on n'a pas une Rosa Luxembourg ressuscitée. Elle est donc réincarnée, elle a sa propre vie, elle suit son propre chemin. Elle va donc avoir une trajectoire qui lui est propre. Mais par contre, elle incarne des valeurs luxembourgeoises d'amitié, de bonté, d'espoir en l'avenir. Et surtout, elle partage avec son éponyme un socle de références marxistes communes peu courante dans la Gaspésie contemporaine. Donc, en fait, transformer le monde fait partie du schéma de valeurs qui lui ont été transmises par sa mère et son héritage communiste, puisqu'elle avait appris à lire, à même le Capital. Oui, bien sûr. Donc, sa relation avec sa mère est bâtie sur l'étude des grands textes politiques, sur des parties de Scrabble. Mais davantage, en fait, pour fêter les 9 ans de sa fille, sa mère, qui était une grande syndicaliste dans le village, s'était surpassée. Je vais vous citer là, quelques extraits du roman. « Comme elle tenait à répandre l'idéologie rouge avec le zèle d'une carmélite, elle avait invité les 24 camarades de classe de sa fille et avait donc décoré la maison en conséquence. » La scène est très loufoque. Elle dépeint en fait une maison où s'accumulent les fanions du syndicat des travailleurs du papier, des étendards rouges, des petites étoiles rouges au plafond de chaque pièce, et une table où trône un énorme gâteau doré en forme de marteau et de faucille. Comme Thérèse, la grande syndicaliste, est peu aimée dans le village, aucune des jeunes filles ne s'est présentée, les parents ne voulant pas que leur jeune fille soit contaminée par de telles idées. Donc, Rosa Ost décide, par elle-même, de se rendre au domicile des fautives pour distribuer des morceaux de gâteau en main propre et, bien sûr, dans de petites assiettes en carton ornées aussi d'une étoile rouge en son centre. Donc, nous sommes dans les années 80, quelques mois en fait avant l'effondrement du mur de Berlin, alors que Margaret Thatcher dirige encore le Royaume-Uni et que les habitants de Notre-Dame de Cachalot n'ont plus d'emploi depuis 9 ans. Donc, en 1980, c'était le référendum. Et puis, la seule usine de ce pauvre petit village de Gaspésie avait fermé, l'usine de papier. Donc, tous les habitants étaient maintenant au chômage. Donc, l'attitude de Thérèse, la mère, a de quoi surprendre par son décalage. Les symboles communistes se figent sous sa main, kitsch souvenir d'un passé dépassé. Avec le décès prématuré de sa mère un soir d'août 2000, Rosa se lance vers sa destinée, donc sauver son village des vapeurs mortelles d'ennui, que je répète. Ici, l'imaginaire et l'humour servent de rempart devant une crise, un désastre actuel qui se passe dans les régions. Avec la mort de sa génitrice, Rosa essaie de retrouver encore une fois un sens à sa vie en relisant la critique de l'économie politique. Mais tout comme sa mère avant elle, elle échoue à réactualiser les écrits marxistes, car sa lecture prend la forme d'une transe idéologique qui s'apparente davantage au mysticisme qu'à la dialectique. Et ici, je cite. Mais pendant ce temps, l'usage du vocabulaire marxiste par le narrateur de La Logeuse participe à une remise en circulation de ces termes. De la Rosa historique, le roman a gardé, en plus des citations provenant de ses textes, une fascination pour l'ornithologie et la bocadamique, de même que sa trajectoire migratoire de la périphérie vers le centre. En effet, sensiblement au même âge, la Rosa réelle et la Rosa fictive quittent leur région provinciale, de même que leur famille, pour une grande ville. Donc, à l'âge âgé de 19 ans, Rosa Luxembourg a quitté la petite ville polonaise pour Zurich, tandis que Rosa Ost, elle a à peu près 20 ans lorsqu'elle quitte le village de Notre-Dame-de-Cachalot pour Montréal. En quittant son village natal, Rosa fait aussi la rencontre d'une pluie de personnages colorés, dont les premières, les arrière-petites filles de Lénine, ne sont pas les moindres. C'est en fait une troupe de danseuses nues qui, tous les soirs, dans un bar de Montréal, réactualise des chansons révolutionnaires comme l'Internationale en se dénudant de leurs moyens de reproduction. Donc, comme le texte nous le montre. Donc, en fait, Rosa, la petite Rosa, va rapidement se lier d'amitié avec ce groupe de danseuses nues qui vont, en fait, encore tour à tour, réactualiser un imaginaire communiste. Dans les rêves de l'histoire, on se retrouve dans le contemporain, encore. C'est une fiction de l'histoire qui est, à mon avis, bien ancrée dans un imaginaire français d'extrême-gauche et qui représente le fantasme du retour du communisme. Un fantasme qui prend place dans une France désillusionnée par le chômage, la précarité et la perte contemporaine des repères. Bref, dans une France qui coule littéralement sous les conséquences d'une idéologie néolibérale poussée à l'excès. Ce roman en fait présente trois personnages historiques sous des formes spectrales, donc sous la forme de revenants qui sont appelés à travers les dédales du temps à se réincarner dans le contemporain. La première est Rosa Luxembourg, qui représente la révolution communiste. La deuxième est Janis Joplin, pour en fait rappeler la révolution sexuelle, les 60s, etc. Puis la troisième est en fait un spectre vivant qui refuse de mourir, parce que le roman a été écrit alors qu'elle était encore vivante, c'est-à-dire Margaret Thatcher. Donc, le roman fait dialoguer, ou en fait, je dirais même fait combattre presque, ces trois visions éclatées du monde, Puis, naturellement, en souhaitant que les deux premières gagnent sur la troisième et que ce présent dépassé qui n'en finit plus d'exister, c'est-à-dire le thatchérisme, soit mis aux poubelles de l'histoire. Il y a en fait un chapitre qui est spécifiquement consacré à la vie de Rosa Luxembourg, où est-ce qu'elle apparaît dans un train qui traverse les champs de sa Pologne natale pour arriver au présent. Donc, on l'a fait vraiment traverser à travers le train sert justement à ce mouvement historique. Janis Joplin apparaît sur sa moto, puis naturellement, dans le temps de Thatcher, tout le monde est pris dans un embouteillage dans une voiture. Donc, chacun de ces moyens de locomotion servent à préciser rapidement le rapport au temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette représentation, on revient à la mort violente de la révolutionnaire. Donc, encore à cette idée de la figure sacrificielle, de cette mort qui a fondé le mythe même de la révolutionnaire. Et la scène est quand même décrite complètement. Donc, je vais vous lire des petits passages. Rosa meurt la tête fracassée par la crosse du fusil du soldat Runge, avant qu'un autre ne la troue d'une balle, avant que d'autres ne jettent son corps dans le canal à Berlin. Dans le train, en fait, la Rosa Luxembourg fictive échoue à se souvenir du visage du Sir Runge. Il faisait partie des Freikorps. Et dans la mémoire de Rosa Luxembourg, il était un homme sans visage. Donc, il y a dans cet anonymat de son assassinat, dans cette fracture-là auquel on revient, c'est une fracture qui m'a beaucoup intéressée parce que, pour l'anecdote, elle a été assassinée par son propre parti politique. Elle militait au sein du Parti social-démocrate allemand. Et puis, lors de la Révolution allemande, donc lors du renversement du régime impérial, c'était son parti qui a pris le pouvoir. Elle était déjà, en fait, en grande dissension pour plusieurs raisons, dont, en fait, la participation du Parti social-démocrate allemand au vote pour les crédits de guerre, donc à la Première Guerre mondiale. Et elle était emprisonnée à l'époque, elle est sortie de prison, en fait, tout juste au moment, le jour avant la signature de l'armistice, elle avait été libérée. Et puis, elle avait déjà donc commencé à fonder sa propre faction politique. Sauf que cet assassinat-là, par sa propre famille politique, par les sociodémocrates, s'est ancré dans l'imaginaire de la gauche radicale d'une manière quand même assez forte. C'est-à-dire, donc, dans une fracture qui existe entre une vision social-démocrate et une vision davantage révolutionnaire. Puis c'est à ça ici que renvoie cette image. On continue en fait et se superpose au visage du soldat d'autres, dont celui en fait des leaders sociodémocrates de l'époque, Scheidemann et Hébert. Et puis, de ce palimpseste se dégage une histoire politique, celle de la trahison de la social-démocratie, et je vais citer ici le texte. Les objectifs politiques incarnés par les chefs sociodémocrates au pouvoir étaient des forces violentes qui avaient trouvé une expression achevée dans le geste du soldat. Les exécutants n'ont jamais de visage, concluait Rosa Luxembourg. À travers, en fait, un collage de citations et un rappel des événements historiques, la figure de Rosa Luxembourg se retrouve esquissée dans le roman. Et ce, afin de créer un appareil discursif capable de renverser celui véhiculé par le néolibéralisme, donc celui véhiculé par Margaret Thatcher. L'objectif, en fait, de ce projet romanesque était de problématiser le retour d'éléments du passé dans le présent afin de forcer l'avènement de la nouveauté. Cela se produit par la contamination par les rêves, un phénomène qui, en poussant les personnages à se révolter, ressoude les liens sociaux. Voilà, donc le personnage historique, comme en fait tout personnage, n'agissait pas seul au début du siècle et c'est ce que ce roman tente aussi de mettre en lumière. Rosa Luxembourg, spectre historique, s'inquiète que l'une des conséquences possibles de son apparition dans le 21e siècle soit sa réification. Elle refuse en fait de consentir à une érotisation érotisation, non, héroïsation de sa personne que l'on exhiberait comme si elle avait été définie une fois pour toutes. Donc, dans le rejet de sa commémoration se trouve en fait une envie de continuer à agir sur le présent. Il y a donc une critique sous-jacente du système de la démocratie représentative qui se trouve en fait mise en mouvement et une justification qui soulève l'intéressante question du caractère collectif de tout mouvement social. Donc, pour faire un peu un parallèle avec ce qui a été montré tout à l'heure sur les représentants étudiants, donc passer la simple représentation du porte-parole ou de l'acteur d'un mouvement puis s'intéresser en fait à ceux qui le font fonctionner. Donc, on arrive en fait à l'impossibilité de faire reposer le succès ou l'échec d'une révolution sur les épaules d'un seul personnage. J'en arrive en fait à la question assez épineuse de la révolution. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment réussir à en parler? Quel parallèle en fait les œuvres, l'imaginaire en règle générale, réussit à faire à travers la figure de Rosa Luxembourg? Surtout lorsqu'on parle ou lorsqu'on tient compte de toute la lourde portée de la révolution russe et de la révolution bolchevique, mais bel et bien aussi des années du stalinisme. Comment est-ce qu'on réussit à repenser la révolution communiste, le communisme, après Staline? Puis, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressée, c'est ce que permet, en fait, à mon avis, le fait de revenir à Rosa Luxembourg. D'abord parce qu'elle est décédée avant, ou presque au début, de cette révolution russe, avant en fait, avant 1921, avant qu'on arrive en fait à ce qu'on considère comme étant indépassable l'imaginaire des camps, de Staline, la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est capable de garder à travers cette figure, ou du moins c'est ce que je crois qui attire les écrivains qui s'y intéressent, quelque chose qui relève de la pureté. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup axé sur l'idée de la figure sacrificielle, sur l'intérêt qu'on arrive avec sa mort. C'est qu'elle est morte, en fait, avant d'avoir pu se salir les mains, d'une certaine façon. Elle est morte avant d'avoir pu se salir les mains, mais aussi sa mort rêvée, en fait, à sa survivance ou rêvée à sa résurgence permet donc de penser la bifurcation historique. Permet donc de rentrer plus facilement dans un fantasme de ici, ici, ici. Et c'est dans ces ici qui s'accumulent que les écrivains ont trouvé en fait la source à l'inspiration. Donc l'objectif en fait de mon travail visait à réfléchir sur les effets textuels que pouvait produire une figure historique aussi importante dans la fiction en essayant justement de s'intéresser à la résurgence de cette figure historique dans la littérature mondiale d'aujourd'hui. Au-delà du fait de cerner l'état de la culture actuelle, la coprésence entre ces œuvres et nos questionnements politiques permet de relever l'omniprésence d'un manque auquel répond la théoricienne. En fait, dans le roman de Dupont, que je suis rapidement passée dessus, la personnage historique y est subtilement esquissé par l'entremise d'une pluralité de signes qui permettent, qui font partie en fait d'une iconographie communiste, un langage marxiste, mais aussi le personnage de Rosa Ost avait cette envie furieuse de changer le monde, de le bouger, de le modifier, de le transformer et surtout de créer des amitiés à travers ça. Dans le roman d'Éric Dupont, justement, en interrogeant le rapport à la temporalité, en racontant de manière parodique l'histoire québécoise, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais je pourrais en parler lors de la période de questions, en ponctuant, en fait, son récit de personnages magiques qui échappent à la mort, il y a une remise en circulation de ces signes-là. Dans Les rêves de l'histoire, en fait, ce roman permet de voir son spectre entrer le Paris contemporain pour y faire une révolution pacifique. Corinne Agouzou, en fait, présente la militante communiste à travers une lunette biographique, mais elle lui offre aussi la possibilité de dépasser l'horizon bouché actuel. Donc, la figure de Rosa Luxembourg, parce qu'elle soulève des questions morales, en prônant une égalité radicale, politique, à travers la démocratisation, sociale et économique, oblige à prendre en considération la totalité du social. Ainsi, le retour à des configurations temporelles passées tel qu'il se trouve réalisé, souligne la critique sous-jacente à notre temps déployée dans les textes, soit l'immobilisme, l'incertitude, l'absence de solution, la peur en l'avenir. Ce retour nous rappelle la persistance des conflits armés qui, s'ils ne se déroulent plus en Europe, continuent à ravager maintes sociétés. Ils nous confrontent à la santé de nos démocraties et au peu d'espace de participation citoyenne dans la prise de décision. Donc, la figure de Rosa Luxembourg tourbillonne au centre d'une crise temporelle qui touche à la fois à la représentation du passé, la conceptualisation du présent et les espoirs en l'avenir. De ces multiples mises en fiction, on a pu relever au cours des lectures un certain nombre de points communs. En questionnant de la sorte la définition de la liberté humaine, du devenir politique et en s'attaquant aux injustices de ce monde, la révolutionnaire s'est retrouvée à incarner un idéal de lutte qui, au fil du temps, a été cristallisé dans l'imaginaire. Sa théorie politique autant que sa pratique s'inscrit dans une lecture du monde qui était orientée vers les rapports de classe comme source principale des inégalités sociales. Si elle avait délaissé volontairement les rapports de sexe qu'elle considérait comme secondaires à la lutte socialiste ou les rapports de race, elle avait néanmoins tenté de les inclure dans une théorie générale de l'accumulation du capital. Et alors que notre époque est marquée par l'analyse intersectionnelle, où les questions économiques se retrouvent reléguées à l'arrière-plan dans nos sociétés occidentales assez aisées, la pensée luxembourgeoise permet de reculer de quelques pas afin d'étudier l'état du monde contemporain dans sa totalité. Pour ce faire, en fait, plusieurs des œuvres qui utilisent l'iconographie communiste ou bien qui présentent des discours enflammés et mobilisateurs, comme dans Les rêves de l'histoire, pour mettre en lumière la puissance des images, des mots et même de l'imaginaire, dans leur capacité à convoquer, du moins dans la fiction, un monde meilleur. Sa représentation évoque également un système de croyances qui, sans être religieux, mobilise une foi et une volonté d'agir sur le monde afin de le transformer. En ce sens, sa mort a participé à en faire une martyre. De par sa décision de demeurer à Berlin en janvier 1919, malgré les risques qu'elle savait courir, elle a refusé de renier son engagement politique et de mettre sa vie au-dessus de celle de ses camarades. Voilà qui a conduit par la suite à une cristallisation dans l'imaginaire de son sacrifice pour la Révolution. Et puis le roman de Tchevengour d'André Platanov l'utilise en quelque sorte comme sainte laïque qui guide les pas du héros. On remarquera l'absence de propositions claires, d'utopies définies ou même de chemin pour y parvenir dans les œuvres qui la fictionnalisent. S'y trouve plutôt glorifié le principe révolutionnaire en lui-même, l'être en lutte des masses anonymes. On retrouve un intérêt marqué pour la communauté, ce qui permet de faire revivre les individus qui l'entouraient et de se pencher sur ce qui liait ces êtres, l'amitié, le groupe politique, au-delà des barrières linguistiques et des frontières nationales. Il y a également dans la philosophie de Rosa Luxembourg une triple impulsion à l'action. Un agir personnel qui prône l'oubli de soi et l'amour du monde, un agir moral qui se révolte contre les injustices et un agir révolutionnaire qui vise à les combattre en modifiant le monde. La logeuse ou les rêves de l'histoire opposent à la longue stagnation du présent cet agir politique révolutionnaire. D'ailleurs, sa pensée politique, notamment celle sur la liberté d'action, a inspiré la philosophe Hannah Arendt, qui considérait, et je vais citer Arendt ici, qu'elle avait appris, et c'était le point essentiel auprès des conseils révolutionnaires de travailleurs, les soviets, qu'une bonne organisation ne précède pas l'action, mais en est le produit, que l'organisation de l'action révolutionnaire peut et doit être apprise dans la révolution elle-même, de même qu'on ne peut apprendre à nager que dans l'eau, et que les révolutions ne sont faites que par personne, mais éclatent spontanément. Et que les forces qui contraignent à l'action viennent toujours d'en bas. Une révolution est grande et forte aussi longtemps que les sociodémocrates, à l'époque encore le seul parti révolutionnaire, ne l'écrasent pas totalement. Et puis c'est vraiment son concept de spontanéité révolutionnaire qui fait encore écho aujourd'hui, en cherchant à expliquer les moments de crise sociale par l'implication soudaine et imprévue du peuple dans une lutte déjà menée par des organisations politiques. Pour faire le clin d'œil encore à 2012, parce qu'on le voyait ici, puis à cette volonté de la droite de matraquer que c'était les syndicats qui étaient derrière, plutôt que de croire que les gens prenaient la rue par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Et donc, cette idée de spontanéité révolutionnaire, cette idée que les gens sortent spontanément, est quelque chose qui fait incroyablement peur. Malgré sa haine maintes fois affirmée des anarchistes, parce qu'en fait, les débats entre anarchistes et communistes ne sont plus à faire ou à raconter, tellement ils ont été nombreux, Ces écrits politiques permettent une certaine réunification de la gauche radicale, et c'est justement pour ça que je la trouve assez intéressante, c'est qu'elle a été tellement lue et tellement relue par les penseurs anarchistes qui s'en sont inspirés et que souvent en fait l'anarchise d'une certaine façon. Éric Hazan, le fondateur des éditions La Fabrique, dresse ainsi un bilan de la réception de Luxembourg au sein de sa tendance politique. Dans la controverse entre Lénine et Rosa Luxembourg, là, je cite Hazan, la balance penche aujourd'hui plutôt du côté de Rosa, non seulement pour son personnage, son courage, sa fin tragique, mais aussi pour ses idées. Sa critique du léninisme comme transposition mécanique des principes d'organisation blanquiste de cercle de conjurés, sa vision des révolutions qui ne se laissent pas diriger comme un maître d'école, son refus de figer l'après-révolution, tout ce spontanéisme est plus proche de nous que les rigidités léninistes. Mais ce que montre la triste histoire des spartakistes, c'est combien Lénine avait raison en poussant le parti bolchevique à refuser toute collaboration avec les modérés, les conciliateurs, les opportunistes. Plus encore, les écrits de la théoricienne offrent une perspective intéressante sur l'échec, sur quoi on a de la difficulté souvent à s'arrêter. La défaite n'y est jamais réfléchie comme une fin, mais plutôt comme une étape obligée d'un parcours et d'un cycle. Luxembourg livre ainsi, dans quelques-uns de ses textes, notamment son dernier article « L'ordre règne à Berlin », un véritable plaidoyer sur l'aspect positif de l'échec, lequel permettrait aux masses d'apprendre de leurs erreurs et donc de progresser davantage vers l'objectif final. Donc, finalement, pour conclure, revenir à Rosa Luxembourg permet certes davantage que se replonger dans une époque politique qui aurait vogué avec enthousiasme vers la fin de l'histoire, c'est-à-dire le communisme. C'est également réactualiser les débats, les dissensions ou le désespoir qui ont marqué ces organisations politiques dans leurs démarches et leurs échecs, autant pour aplanir les inégalités sociales que pour abolir les injustices structurelles. Autrement dit, sa revenance dans l'imaginaire social rappelle la tension propre à tout présent tendue vers l'avenir. Les plaisirs autant que les difficultés de vivre dans un monde, alors qu'on souhaite avant tout le transformer. Alors que le discours ambiant est marqué par les imaginaires de la faim et autres catastrophes, le spectre de Rosa Luxembourg apporte, pour le dire comme Didier Huberman, une lueur erratique, certes, mais une lueur vivante, lueur de désir et de poésie incarnée. Donc, elle incarne ces moments d'exception où les êtres humains deviennent lucioles, c'est-à-dire des êtres luminescents, dansants, erratiques, insaisissables et résistants comme tels. Et si elle agit ainsi sur les esprits comme une luciole, c'est sans doute parce que cette figure éminemment positive insuffle un brin d'espoir qui, on l'espère, se perpétuera au travers des âges. Merci.